France Culture, il est midi tout de suite, c'est le journal d'Antoine Mercier. Bonjour.
Bonjour.
Il est midi et demi.
Oui,
pardon.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'attentat suicide de Manchester, le bilan s'élève à 22 morts et 59 blessés. L'explosion s'est produite hier soir à proximité de la Manchester Arena. La police aurait identifié ce matin le kamikaze. On va être en ligne avec Marina Daras dans un instant à Londres. Et avec le chercheur François Hesburgh. À l'instant, on apprenait qu'une détonation avait été entendue dans un centre commercial également à Manchester. Pas d'autres précisions pour l'instant. À Paris, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb donne des consignes aux organisateurs d'événements sportifs et culturels pour assurer, dit-il, la protection des Français. Dans le reste de l'actualité, Donald Trump à Bethléem pour un entretien avec le président palestinien. Le président américain s'engage à faire tout son possible pour aider Israéliens et Palestiniens à conclure un accord de paix, compte rendu d'Étienne Monin. En France, Emmanuel Macron reçoit tour à tour les responsables syndicaux et patronaux pour présenter sa réforme du marché du travail. Ont été reçus ce matin Laurent Berger pour la CFDT, Philippe Martinez de la CGT, Jean-Claude Mailly de FO et en ce moment Pierre Gattaz pour le MEDEF, précision d'Annabelle Grelier. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, prévient les syndicats n'ont pas le droit, dit-il, de bloquer la France, surtout quand la réforme est au cœur du projet présidentiel. Analyse politique de Stéphane Robert. L'invité de la séquence interview, Aurélie Filippetti, députée socialiste de Moselle. D'abord donc cet attentat suicide de Manchester hier soir. L'explosion s'est produite à proximité immédiate de la Manchester Arena. C'est une salle de concert, 21 000 places. Alors que le concert se terminait, un kamikaze qui active une charge au niveau des accès qui relient cette salle au réseau de transport en commun de la ville, de cette ville du nord de l'Angleterre. Bilan donc 22 morts, 59 blessés. Attaque qui visait donc un public très jeune. Les fans d'Ariana Grande qui sont majoritairement des enfants ou des adolescents. Marina Daras, bonjour.
Bonjour.
Réunion de crise ce matin à Londres. Poursuite de l'enquête. La première ministre Theresa May vient de prendre la parole. On écoute un extrait de son intervention.
Nous n'arrivons pas à comprendre comment quelqu'un peut viser des enfants, peut être aussi tordu et malade pour perpétrer ce genre d'attaque. Et nous essaierons de tout faire pour traduire en justice les responsables de cette attaque. Les forces de police pensent que, pour l'instant, l'attaque a été perpétrée par une seule personne. Il faut maintenant savoir si elle agit seule, si elle agissait dans le cadre d'un réseau. Tout cela prendra du temps. L'enquête va se poursuivre et les forces de police et les services de sécurité auront toutes les ressources nécessaires pour mener à bien leur tâche. Nous pensons connaître l'identité de l'attaquant, mais nous ne pouvons pas confirmer son nom pour l'instant à ce stade de l'enquête.
Voilà donc ce que disait il y a quelques minutes Theresa May. Marina Daras, est-ce qu'on a donc maintenant une idée plus précise pour tenter de reconstituer ce qui s'est passé hier soir donc dans cette salle de concert ?
Alors, ce que nous savons pour l'instant, c'est qu'il s'agit bien d'un attentat suicide. Le terroriste portait une ceinture explosive improvisée à laquelle il avait ajouté des débris de verre et de métal pour renforcer son impact. Les autorités ont confirmé que l'homme était mort sur les lieux de l'incident. La ceinture explosive a été déclenchée à 10h30 heure locale, 23h30 heure de Paris, à la fin du concert. Donc, alors que la salle se vidait et que tout le monde se dirigeait vers la sortie, le terroriste se trouvait dans le foyer de l'aréna, qui est le hall d'entrée du stade qui rejoint la gare de Manchester où beaucoup de personnes se dirigeaient. Plusieurs personnes sont toujours portées disparues. 400 officiers de police ont été mobilisés toute la nuit et la sécurité dans les grandes villes britanniques a été renforcée. Le maire de Londres a annoncé une plus grande présence policière dans la capitale.
La police croit donc connaître l'identité du kamikaze dont on ne sait pas grand-chose. Pour l'instant, pas de revendication non plus.
Non, alors une investigation a évidemment été lancée pour tenter de savoir qui était l'attaquant, mais aussi s'il agissait seul ou avec des complices. Les autorités essayent également de savoir comment cette personne a pu introduire un engin explosif dans un stade comme celui-ci. Et pour l'instant, eh bien, les autorités britanniques n'ont pas communiqué d'informations sur son identité, mais comme on vient de l'entendre, Theresa May dans son discours confirmait que la police connaissait désormais l'identité de l'attaquant. On sait qu'il portait sur lui des papiers qui a certainement aidé son identification, mais rien n'a été confirmé pour le moment.
Merci beaucoup Marina Daras pour ces dernières précisions. Vous interveniez donc en direct de Londres alors que les dépêches d'agence annoncent qu'il y a eu une explosion dans un centre commercial de Manchester. C'est ce que rapportent les témoins, que la police serait en train, je cite, de traiter cet incident donc dans ce centre commercial, toujours dans cette ville de Manchester. Évidemment, on vous en dira plus au fur et à mesure que se déroulera cette édition. On est en ligne avec François Heisbourg. Bonjour.
Bonjour.
Président de l'Institut international des études stratégiques basé à Londres, est-ce que cet attentat a des caractéristiques particulières selon vous et lesquelles ?
Bon ben écoutez, la caractéristique la plus évidente, c'est le côté attaque suicide avec un explosif préparé avec efficacité. Ça rappelle beaucoup l'attentat de 2007 à Londres, à 2005, pardon, à Londres, le 7 juillet, et où il y avait eu 52 morts. Là, il s'agissait d'un attentat simultané avec 4 explosions. Et autrement dit, nous sommes dans un mode opératoire djihadiste assez classique.
Mais quel niveau d'élaboration, selon vous ?
Écoutez, pour fabriquer un explosif ayant l'effet qu'il a su, il faut quand même avoir de l'expertise, une certaine formation et un petit peu de chance. C'est quelque chose de beaucoup plus élaboré que le fait de sauter dans une voiture ou dans un camion et d'aller écraser la foule. C'est pas quelque chose qui a été fait sur un coup de tête.
François Heisbourg, merci, vous restez avec nous. On va parler maintenant des réactions en France, dans le monde aussi. Un petit mot de ce que disait le président américain tout à l'heure en condamnant cet attentat. « Je ne les appellerai pas des monstres », a dit Donald Trump, « car ils aimeraient trop ce mot. À partir de maintenant, je les appellerai des losers parce que c'est ce qu'ils sont ». Fin de citation. Paris affirme sa détermination à poursuivre le combat contre le terrorisme aux côtés du Royaume-Uni, promet de faire le maximum pour prévenir toute nouvelle attaque, évidemment, sur son sol. Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, affirme que cet attentat montre que la menace est élevée dans toute l'Europe et il prévient, il annonce que des consignes de sécurité ont été données. On l'écoute.
Une circulaire sera envoyée en début d'après-midi à l'ensemble des préfets pour qu'ils puissent assurer, avec les organisateurs de spectacles, d'événements sportifs ou culturels, la sécurité de celles et ceux qui viendront à ces manifestations.
Gérard Collomb, donc ministre de l'Intérieur. François Heisbourg, est-ce qu'on peut dire qu'un attentat comme ça pourrait être suivi d'autres actions ou est-ce que c'est simplement des mesures de précaution nécessaires parce que l'opinion, évidemment, est choquée par cet attentat ?
Écoutez, le mode opératoire est assez typique de ce que font les djihadistes. La menace du terrorisme djihadiste est transfrontière, n'est pas spécifique au Royaume-Uni ou à la France ou à la Belgique. Et donc, il faut hélas partir du principe qu'il y aura d'autres tentatives. Il va falloir tenter de déjouer. C'est un défi qui se présente, s'agissant de la France, donc au tout début du quinquennat d'Emmanuel Macron.
Et est-ce que la lutte antiterroriste en général fonctionne alors que ces attentats manifestement continuent partout en Europe ?
Comme cela est dit et répété, malheureusement à juste titre, il n'y a pas de risque zéro. Il faut simplement tenter de réduire au maximum le niveau du risque, et les Britanniques rappellent assez volontiers, comme le font d'ailleurs les Français, le nombre des attentats qu'ils ont déjoués. Et ça ne marche hélas pas à tous les coups. Alors du côté français, il y a des progrès réels qui ont été faits au cours des dernières années. La coopération entre les services, je crois, fonctionne plutôt mieux qu'avant. Mais il y a un certain nombre de trous dans la raquette, et c'est ce qui avait été pointé par le candidat Macron pendant la campagne. Et il y en a de deux ordres. Et au sommet, il n'y a pas aujourd'hui de capacité centralisée de ce qu'on appelle la fusion et l'évaluation du renseignement pour assurer la conduite stratégique de la lutte contre le terrorisme, d'où la proposition d'Emmanuel Macron d'installer ce qu'il appelle une task force à l'Élysée en la matière, et d'autre part, c'est le rétablissement du renseignement dit de proximité, c'est-à-dire celui qui se passe au niveau du terrain et qui avait été très sérieusement endommagé par des décisions prises pendant la présidence de M. Sarkozy. Mmh. Il se trouve aussi que M. Macron a devant lui un problème un peu particulier dû au hasard du calendrier, c'est que les chefs des principaux services de renseignement, des GSE, des RM, des GSI, sont tous en train de partir à la retraite. Et il va donc falloir les remplacer à très brève échéance. Donc, entre la réforme du renseignement et le remplacement des chefs, il y aura là une situation que le président devra gérer, je pense, au cours des prochaines semaines. Je pense qu'il aurait d'ailleurs intérêt à faire ça comme un projet d'ensemble plutôt que d'annoncer des initiatives coup par coup.
Merci. Merci beaucoup, François Hesbourg, d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. On passe au reste de l'actualité, à l'international notamment, avec cette visite de Donald Trump à Bethléem ce matin. Entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas, qui déclare avoir réitéré sa position de deux États le long de la frontière de 67, un État palestinien ayant pour capitale Jérusalem-Est, vivant aux côtés de l'État israélien, dit-il, dans la sécurité et la paix. Le président des États-Unis s'engage, lui, à faire tout son possible pour aider Israéliens et Palestiniens à conclure un accord de paix. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
Vous revenez donc d'assister à cette rencontre. Au-delà des déclarations d'intention, on n'en sait pas beaucoup plus ce matin, ni sur la méthode, ni sur les moyens que M. Trump pourrait mettre en œuvre.
Non, on est toujours à 24 heures de ce déplacement. Il n'y a pas d'indication sur les clés, finalement, pour débloquer ce processus de paix. On le rappelle, 2010, c'était la dernière rencontre entre Mahmoud Abbas et Benjamin Netanyahou. 2014, les derniers pour parler. Depuis, on est rentré dans un statu quo. Barack Obama n'avait pas réussi, peut-être par manque de volonté sur la fin, peut-être par manque de croyance, aussi par manque de puissance politique, à tenter de bouger ce statu quo. Donald Trump arrive, lors de ce déplacement, avec des déclarations très volontariste en disant que le contexte n'a jamais été aussi bon pour essayer de faire avancer les choses. Les deux dirigeants s'expriment également dans ce sens, mais pour l'instant, on ne sait pas précisément ce qu'il y a derrière sa volonté. Les seuls éléments concrets qui ont été donnés sur la rencontre de ce matin, c'est que la rencontre a porté sur la capacité, la façon de débloquer, de relancer l'économie palestinienne et la lutte contre le terrorisme, deux thèmes qui avaient été précédemment annoncés par le président américain. Ce qu'on a aussi entendu côté palestinien, c'est cette déclaration de Mahmoud Abbas qui dit que le conflit n'est pas religieux, que ça n'est pas palestinien contre judaïsme, mais que c'est un conflit lié à l'occupation et à la colonisation. On a aussi noté que la nature des relations n'est pas la même d'un côté et de l'autre du mur de séparation. Hier à Jérusalem, le président américain était accompagné de sa femme et de sa fille. Aujourd'hui à Bethléem, dans le palais présidentiel, il était entouré simplement de ses conseillers et de son beau-fils qui lui-même est conseiller pour la région.
Étienne Monin, merci beaucoup en direct de Jérusalem. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui tour à tour les responsables syndicaux et patronaux pour présenter cette fameuse réforme du travail que le président veut mener à bien rapidement. Donc ce matin, Laurent Berger pour la CFDT, Philippe Martinez pour la CGT, Jean-Claude Mailly de Force Ouvrière et Pierre Gattaz, reçu en ce moment le président du MEDEF. Bonjour Annabelle Grelier.
Bonjour Antoine.
Alors, vous suivez ces discussions. Le fond ne semble pas vraiment avoir été abordé pour l'instant, mais la méthode, oui, elle a bien été abordée.
Alors un président déterminé, mais un président à l'écoute. Ce sont les premières impressions de Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui était le premier à ouvrir le bal ce matin dans le bureau d'Emmanuel Macron. Pour ce premier contact, s'ils n'ont pas parlé des détails qui fâchent, ils ont au moins parlé de la méthode. La priorité aujourd'hui pour les syndicats est de s'assurer qu'ils ne vont pas être écartés des décisions ou d'éventuelles négociations. Le fameux passage en force tant redouté pour Laurent Berger, qui souhaiterait lui instaurer presque une co-gestion avec le gouvernement.
On a discuté méthode, objectivement plus que du fond. Je lui ai demandé que la méthode ne soit pas à la hussarde, comme je l'avais déjà dit, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une forme de précipitation qui ferait qu'il y aurait d'ici l'été, d'ici la fin de l'été, d'ici fin août, le sentiment qu'il faudrait avoir tout réglé. De mon point de vue, c'est juste impossible et ça ne laisserait pas le temps suffisant à la nécessaire concertation sur des sujets lourds. Le président de la République, il m'a semblé à la fois déterminé à mettre en place ce qu'il avait annoncé, sans entrer dans les détails, parce qu'il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles nous ne savons pas exactement ce qu'il y aura, mais je l'ai senti aussi à l'écoute et en capacité d'écouter, en tout cas dans cette volonté-là.
A priori donc, ils ne sont pas rentrés dans le dur, dans les détails du dossier, des détails qui seront sans doute abordés dans les prochaines rencontres bilatérales prévues à Matignon et au ministère du Travail dès lundi. Pour l'heure donc, on est resté sur des questions de calendrier. La CGT craint en effet de voir les discussions sur la loi travail filer à un train d'enfer pendant l'été, pendant que les salariés sont en congé et donc peu mobilisables. Philippe Martinez dit avoir compris que le calendrier avait bougé. Ce ne serait pas aussi rapide que prévu. L'échéance de fin août et du 1er septembre a l'air plus floue, déclarait-il à sa sortie de l'Elysée. La CGT ne semble cependant pas prête aux concessions, notamment sur l'inversion de la hiérarchie des normes qu'Emmanuel Macron veut étendre à tout le code du travail. Quant à savoir s'il décidera de nouvelles grèves ou de nouveaux blocages, comme voudrait l'en dissuader le porte-parole du gouvernement, Philippe Martinez lui a rétorqué qu'un ministre dit ce qu'il veut et les salariés font ce qu'ils veulent. Même son de cloche à Force ouvrière, Jean-Claude Mailly a déjà menacé d'un effet boomerang en cas de passage en force. Emmanuel Macron va donc continuer à recevoir les partenaires sociaux aujourd'hui, jusque dans l'après-midi, mais il est sûr d'obtenir plus d'appui du patronat qui se retrouve sur ses grandes orientations, même si la CPME et l'UDP réclament des mesures spécifiques pour les petites entreprises.
Merci beaucoup Annabelle Grolier. Effectivement, le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner était intervenu ce matin pour dire que les syndicats n'avaient pas le droit de bloquer la France, surtout quand cette réforme est au cœur du projet présidentiel. On l'écoute.
Il faut empêcher tout blocage, mais on n'a pas le droit de bloquer la France parce qu'on n'est pas d'accord avec telle ou telle mesure, surtout quand elle était au cœur du projet présidentiel d'Emmanuel Macron. La loi El Khomri, la difficulté, c'est que ça n'était pas au cœur du projet politique, du mandat politique de François Hollande, et elle est venue en fin de mandat. Là, je crois qu'aujourd'hui, pour les Français, les choses sont claires. Ils ont élu Emmanuel Macron avec la volonté de libérer le travail. Donnons-nous les moyens du dialogue et jamais du blocage.
Le gouvernement veut donc aller vite boucler l'affaire au plus vite. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, Le Figaro parle ce matin de blitzkrieg social, et c'est ce terme finalement qui correspond assez bien quand même à la démarche présidentielle.
Oui, Emmanuel Macron veut aller vite. Tellement vite d'ailleurs qu'il n'attend même pas le résultat des élections législatives afin de savoir s'il aura une majorité à l'Assemblée pour conduire ses réformes. Il y a là sans doute à la fois la volonté d'afficher une certaine confiance dans l'issue de ce scrutin et la volonté de l'enjamber, manière de montrer que ce qui est important, c'est l'après-législative et la mise en œuvre de son projet gouvernemental. Il y a aussi vraisemblablement l'intention de la part du nouveau président de prendre de court l'opposition syndicale, d'autant que cette réforme du Code du travail est un sujet sensible sur lequel même la CFDT affiche un certain scepticisme. Pour autant, il ne semble pas être dans l'intention du nouvel exécutif de faire passer cette réforme en douce au cœur de l'été, alors que les Français sont en vacances. On serait plus sur une adoption à la rentrée, comme vient d'ailleurs de le laisser entendre Philippe Martinez à sa sortie de l'Elysée. D'autant qu'il a des atouts, Macron, pour la mener à bien, sans recourir à des subterfuges un peu grossiers. Déjà, il devrait bénéficier pendant quelques mois de sa légitimité toute neuve. On voit mal comment une forte contestation sociale pourrait naître à la rentrée contre une réforme annoncée pendant la campagne et du coup validée en quelque sorte par son élection. Et puis, il ne devrait pas y avoir un front syndical uni face à ce projet de réforme. La CFDT, même si elle pourrait contester certains points, comme le plafonnement des indemnités prud'homales, ne devrait pas s'y opposer. Force ouvrière, on n'a pas encore les déclarations de Jean-Claude Mailly, mais aux dernières nouvelles, même s'il a parlé d'éventuels effets boomerang, il s'est dit ouvert à la discussion. Et du coup, la CGT, qui a récemment perdu sa place de premier syndicat dans le privé, pourrait bien se retrouver isolée sur une éventuelle contestation. Beaucoup de choses dépendront évidemment du résultat des élections législatives, mais il semble se dessiner que si En Marche n'obtient pas une majorité absolue, le président et son gouvernement pourront au pire constituer une majorité de coalition, avec le ralliement vraisemblable après coup de députés du centre droit et du centre gauche. Dès lors, Emmanuel Macron ne devrait pas rencontrer trop de difficultés à faire adopter cette réforme capitale pour lui et pour la suite du quinquennat, d'autant que la faire adopter par ordonnance n'a rien à voir avec le 49-3, puisqu'il faut un vote d'habilitation des députés en amont et un vote en aval de ratification.
Merci beaucoup Stéphane Robert. On retrouve Aurélie Filippetti pour la séquence interview. Aurélie Filippetti, députée de Moselle en direct de France Bleu. Lorraine Nord, bonjour madame.
Bonjour.
Il y a la méthode et il y a le fond. Est-ce que sur le fond de cette réforme, vous êtes en désaccord ou est-ce qu'il y a certains éléments que vous reprendriez ?
Bah écoutez, d'abord, vous me permettrez de faire un commentaire sur les propos du porte-parole du gouvernement. Il dit que la réforme du Code du travail est, en quelque sorte, le détricotage des grands principes qui régissent le Code du travail en France était au cœur du projet d'Emmanuel Macron et que ça a été validé par le suffrage universel.
Ah, c'est vrai que c'était au cœur de son projet, il l'a dit.
Oui, mais sauf qu'il oublie ce qui n'est pas un détail, c'est que Emmanuel Macron n'a pas été élu pour son projet au second tour, il a été élu contre le Front National. Et il y a une immense majorité des Français qui aujourd'hui se sentent floués parce que ils n'ont jamais soutenu ce programme de réforme et de destruction du Code du travail lorsqu'ils ont voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Donc ce coup de force n'est pas acceptable sur un sujet aussi sensible que le droit du travail en France.
Sur le fond, quel est le problème principal selon vous ?
Ben sur le fond, c'est le problème toujours hein, de la protection des salariés. Il y a plusieurs manières de réformer le Code du travail. Il y a quelques mois, il y a un groupe de juristes spécialisés dans le Code du travail, universitaires, avocats spécialisés en droit du travail, qui ont travaillé, et ce pendant plusieurs semaines, pour montrer qu'il était possible de réformer et d'alléger considérablement le Code du travail en renforçant la protection des salariés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça vers quoi on devrait aller. Simplifier pour rendre plus lisible, plus applicable, plus facilement applicable dans les différentes entreprises, mais plus protecteur aussi. Et la deuxième chose, c'est que ce principe de l'inversion de la hiérarchie des normes, nous l'avions déjà contesté lors de la loi El Khomri. Pourquoi ? Bah, d'abord, parce que c'est évidemment, ça affaiblit considérablement la protection de ceux qui travaillent un petit peu partout. Ça ne permet pas de remplir les carnets de commandes, donc ça n'aura aucune incidence sur l'emploi, sur la lutte contre le chômage. Mais ensuite, il y aura une vraie différence entre les petites entreprises et les grandes entreprises. Et je ne m'étonne pas de voir que les grandes entreprises soutiennent cette réforme, ces principes, alors que les petites sont sceptiques. Pourquoi ? Parce que dans une petite entreprise, on ne peut pas perdre son temps à faire des discussions sociales en permanence. Ni les salariés, ni les employeurs dans ces petites entreprises n'ont le temps et n'ont les moyens d'être dans des discussions sans cesse sur la manière de régir en quelque sorte l'organisation du travail au sein de leur entreprise. Je crois que c'est vraiment un recul.
On comprend votre position, mais est-ce que le Parti Socialiste, qui a une attitude un peu ambiguë, on va dire, par rapport à Emmanuel Macron, peut résister à cette offensive qui est conduite de manière assez magistrale finalement, puisqu'il s'agit de passer en force effectivement pour arriver à un vote en septembre?
Pour moi, ce n'est pas du tout magistral. Ce qui serait magistral, ça serait de faire une réforme qui obtienne l'assentiment d'une majorité de Français et d'une majorité de parlementaires. Là, c'est simplement un coup de force, c'est un abus en quelque sorte de position dominante. Il a été élu contre le Front National et maintenant il en profite pour faire passer des réformes libérales. Et comment résister ? Bien, il faut que les Français sachent que les élections législatives, c'est ça qui définit les grandes lignes de la politique qui va être menée pendant 5 ans. On voit bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron se prépare à gouverner avec la droite. Ce qu'il veut faire, c'est une coalition avec les partis de droite. Il a déjà mis des gens de droite au poste les plus éminents de son gouvernement. Donc demain, pour justement défendre un vrai code du travail, défendre le système social français, eh bien, il faut élire des vrais députés de gauche, des députés qui n'ont pas honte de leur étiquette, qui ne vont pas se rallier pour un plat de lentilles au nouveau pouvoir ou au nouveau César, des députés qui sont fiers de leurs convictions et qui aussi savent qui ils défendent, c'est-à-dire les électeurs des classes moyennes et des classes populaires.
Question de Stéphane Robert.
Précisément, Aurélie Filippetti, pour ces législatives, pour le Parti Socialiste, est-ce que la question, c'est pas comment survivre avec la forte concurrence qu'il y a à gauche, des candidats Parti Communiste, des candidats France Insoumise, des candidats En Marche qui font concurrence de l'autre côté ? Est-ce que vous ne craignez pas justement qu'il y ait beaucoup de députés socialistes qui passent à la trappe du coup ?
Pour le Parti Socialiste, le vrai risque, c'est finalement que les gens nous disent « mais finalement, pendant 5 ans, qu'avez-vous fait pour protéger les salariés ? Il y a une forme de déception par rapport à ce qui s'est passé pendant les 5 ans qui viennent de s'écouler. Donc, on a besoin de les convaincre que oui,
mais
on va défendre justement leurs droits. »
Mais avant les 5 ans, est-ce qu'il n'y a pas un problème là au niveau des élections qui auront lieu dans 3 semaines ?
Non, ce que je veux dire, c'est que c'est finalement le bilan des 5 ans qui vient de s'écouler qui est lourd à porter dans ces élections législatives. Et puis, ce sont surtout les comportements indignes, les trahisons, les comportements tout à fait opportunistes de ceux qui, venant du Parti Socialiste, soit ont rejoint Emmanuel Macron, soit aujourd'hui font campagne avec des affiches bleues et en mettant majorité présidentielle.
Ouais, c'est une grande confusion quand même pour les électeurs, parce qu'on ne sait pas finalement qui défend le gouvernement, la majorité présidentielle, et qui s'y oppose.
Mais c'est pour ça que j'invite les électeurs à lire, attentivement
alors
les documents
qu'il faut regarder sur les affiches.
Transmis.
Est-ce qu'il
faut regarder
le logo
la couleur des affiches. Il faut déjà regarder la couleur alors, des affiches. Si vous avez du bleu, en général, c'est plutôt la droite. Si vous avez du rouge ou du rose, c'est plutôt la gauche. Voilà, ce sont des choses simples. Voyez.
Est-ce que vous pensez qu'il faut changer le nom du PS comme Jean-Christophe
Ça, on en parlera après. Vous savez, déjà, l'enjeu, c'est d'avoir un vrai groupe de gauche à l'Assemblée nationale qui sera capable, justement, de porter la contradiction au pouvoir très centralisé d'Emmanuel Macron. On a un président de la République qui est jeune, qui prétend rénover la manière de faire de la politique, mais la première chose qu'il fait, c'est de dire qu'il veut à la fois s'asseoir sur le dialogue social et s'asseoir sur la démocratie parlementaire. Pour moi, ce n'est pas un progrès, c'est au contraire une régression et un danger.
Merci.
La démocratie, c'est un équilibre des pouvoirs, et ça, je ne vais pas vous le rappeler, mais en tout cas depuis Montesquieu, il faut veiller à ne pas donner tous les pouvoirs à un seul homme.
Aurélie Filippetti, merci beaucoup. Merci aussi pour ce décryptage du code couleur des affiches électorales. Merci à nos amis également de France Bleu, Lorraine Nord, où vous vous trouviez donc à Metz. La météo, du soleil presque partout, sauf dans l'ouest, des températures de 19 à 30 degrés du nord au sud. A signaler que l'incident qui était signalé ce matin, tout à l'heure, en début de journal, dans ce centre commercial de Manchester, eh bien, finalement, était simplement une fausse alerte, en tout cas. Le bilan de l'attentat qui a eu lieu hier soir à Manchester, dans cette salle de concert, s'élève à 22 morts et 59 blessés. Nous en parlerons, bien sûr, dans nos prochaines éditions. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal 18h avec Tara Schlegel. Et on retrouve dans un petit instant Olivia Gesbert à Cannes pour la dernière partie de la Grande Table.